Bah malheureusement pas tout de suite parce qu'il y a la tempête Pedro qui arrive sur la France. Déjà ce matin il y a une première perturbation qui arrose copieusement la Bretagne, la région parisienne, et puis ça va se déplacer. Le sud-ouest demain sera une nouvelle fois en première ligne et va subir de fortes pluies avec aussi un violent coup de vent. Il faut s'ajouter, alors il y a les crues bien sûr, mais il y a aussi le risque de fortes vagues parce que les coefficients de marée sont au plus haut. Et donc là, c'est une grande inquiétude, notamment sur tous les départements côtiers. Il y a des conséquences bien sûr matérielles, des conséquences sur la vie des gens, des conséquences pour les agriculteurs. Il y a, je le rappelle, un Français sur quatre qui vit en zone inondable. Donc il va falloir aussi se poser des questions. Et déjà, le premier montant qui circule du côté des assurances, c'est 1 milliard d'euros de dégâts. Ça veut dire aussi que nos primes d'assurance seront plus élevées l'année prochaine. Bah oui, parce qu'il n'y a pas de secret. Alors, bien sûr, ça nous inquiète tous. Didier, je voudrais aller vers toi. Quand tu es agriculteur, que tu as des tonnes de flotte à gérer, par exemple pour tes bêtes, comment ça se passe?
Alors moi perso, j'ai quelques soucis cette année parce que tous mes animaux ne tiennent pas dans l'étable. Donc j'ai des animaux dehors et c'est vrai que ce temps-là, ça défonce tout. Ça, t'as beau leur mettre à manger dehors, ils en font pas. C'est pas efficient, quoi. Ils mangent plus et c'est pas efficient. Et après, il y a aussi tout le travail des champs, quoi. Enfin, tout ce qui est céréales, tout ce qui est, il ne se passe rien, quoi. Là, ça serait la saison où faudrait commencer à mettre des engrais, où faudrait, mais tu peux pas passer dans le champ, quoi. Là, tout le monde est fermé dans les cours de ferme, il se passe rien parce que c'est détrempé partout. Et du coup, au niveau agricole, moi, je me pose aussi d'autres questions. C'est quid du stockage? Parce que derrière des périodes aussi longues de pluie sans discontinuer, on sait un truc. C'est qu'on aura soif à un moment donné, quoi. La pluviométrie, je veux bien que le climat change, mais la pluviométrie, c'est une moyenne sur l'année, quoi. Et tout ce qui est en train de tomber, ça tombera pas cet été, ça je vous l'annonce.
Donc ça veut dire qu'on pourrait en profiter pour stocker de l'eau avec des bassines?
Ben, avec ce qu'on veut.
J'ose des mêmes. Allez, j'ose le mot des méga bassines parce
non,
que.
Non, mais tu vois, ça sert à rien.
Il y a un trop plein d'eau, donc on pourrait en stocker.
Voilà, aujourd'hui, là, ils peuvent toujours me dire que les nappes phréatiques sont pas à niveau, quoi. Je veux dire,
ça
à un moment
difficile.
Donné, quand tu regardes l'état des fleuves, les cinq grands fleuves qui sont tous à la côte d'alerte, hein, dès que t'approches de l'embouchure, ils sont tous à la côte d'alerte. Donc ça veut dire que les bassins versants sont remplis. Il y a plus de zones en France aussi aujourd'hui où on est en déficit hydrique. Donc ça veut dire que toute cette eau qui tombe, si on était intelligent, on serait capable de la stocker et elle nous servirait à faire de l'irrigation et à rendre de l'eau l'été. Peut-être même de l'eau potable, tu vois. Il y a un moment donné, le stockage de l'eau, et si vraiment le climat change, enfin, moi j'ai lu un truc là-dessus, enfin, on était au bout du Gulf Stream, si tu veux, le décalage un peu lié au réchauffement climatique fait que ce Gulf Stream, il va se décaler un peu, et nous, on va prendre des perturbations tout l'hiver.
Les experts nous expliquent.
Mais on aura des sécheresses l'été, quoi.
Ils nous expliquent qu'il pleuvra plus l'hiver, il fera plus sec l'été, mais donc là, l'idée, c'est effectivement de stocker l'eau l'hiver pour en avoir l'été.
Je pense qu'il faut qu'on
s'inspire du bon sens.
Les climats méditerranéens qui très rapidement dans les années 50 ont commencé à stocker de l'eau pour pouvoir ne pas en manquer l'été. Aujourd'hui, on a des moyens modernes pour stocker de l'eau qui pourraient nous permettre de la rendre, je te dis, même potable dans certaines zones. Il va manquer de l'eau potable.
Mais il a plu, il pleut depuis 36 jours.
Mais on n'y peut rien.
Ça, on n'y peut rien. Première
on
chose.
Subit.
Ce qui est intéressant à observer. C'est que justement, compte tenu de ces phénomènes climatiques qui nous arrivent parfois la canicule et parfois beaucoup de pluie, parfois des inondations, il y a même parfois des cyclones quelque part, c'est il faut observer comment la classe politique anticipe et organise. Non mais en fait c'est parce que nous en tant que citoyens, à part payer plus d'assurance,
la classe politique elle est au pouvoir parce que on le veut bien, c'est-à-dire
bien
c'est
sûr.
Les élections démocratiques libres.
Non mais
les citoyens peuvent faire pression aussi.
Mais bien sûr, mais
pour le maire, tiens, les municipales c'est dans 4 semaines.
Non, mais
tu vas voir monsieur le maire, pardon Zora, mais là tu es dans un village.
J'ai même pas fini.
Non mais tu es dans un village inondé. Tu vas voir ton maire, tu dis très bien, qu'est-ce qu'on fait la prochaine fois?
Bah
oui.
Ben...
j'ai pas fini. J'ai dit que à partir du moment où tout le monde sait que les pouvoirs publics savent qu'aujourd'hui nous sommes confrontés à ce type de phénomène. Les plans, c'est pas sur 3 jours. Les plans, c'est pas sur 1 mois. Les plans, c'est sur la durée. Donc, comment, y compris avec les maires, et là je te rejoins Olivier, avec les maires, comment nous organisons les infrastructures, les maisons, etc., de manière à, comme tu dis, à la fois se servir de l'eau pour qu'elle puisse servir, à la fois les constructions, qu'est-ce qu'on mange. Le problème, c'est qu'on n'a pas de visibilité. C'est-à-dire que t'organises.
Refuser les permis de construire systématiquement en zone inondable.
T'organises ça sur 40 ans, 50 ans, tu commences maintenant. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui découvrent. Ah bah mince, il y a toute une zone résidentielle avec 5000 habitants qui sont en zone inondable. Ouais, ok, on le savait, mais on a quand même donné le permis. C'est pas grave.
Donc y a... bah, les gens ont acheté en connaissance de cause.
Oui, bien sûr, mais tout le monde achète en zone
inondable. Parce qu'en général, c'est moins cher.
Tout le monde achète en zone inondable. Oui. Tout le monde, parce que tout le monde est confronté.
Tu le sais, l'information est obligatoire.
Donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est à la fois que les collectivités locales soient mobilisées, c'est important, mais que l'État ait un plan de restructuration de manière à ce que tu pourras payer autant d'assurance que tu veux. Ça réglera pas le problème.
Mais alors d'accord, mais soyons, mettons les pieds dans le plat. Il va falloir dire aux gens de déménager.
Oui,
il y a des gens.
S'il le faut.
Non, mais déjà, Olivier, avant d'en arriver là. Arrêtons de donner des permis de construire en zone inondable.
Voilà.
Parce que aujourd'hui, il y a des gens qui vont délivrer des permis de construire en zone inondable.
Zone à forte inondation, pas des zones.
Ouais, mais pardon, mais quand tu as un procès sur quatre en zone inondable, il faut bien peupler, il faut bien loger les gens.
Oui.
Donc
faut se poser.
Ou alors tout le monde sera en montagne.
Mais en même temps, tu vois, sur ce que je disais dans le stockage de l'eau, où je rejoins Zora, c'est que il y a pas besoin d'un grand plan de l'État pour faire ça. Mais au moins quand il y a un opérateur privé qui a un projet, mais qu'on arrête de le faire chier.
Voilà, exactement.
Qu'on arrête de le faire chier sous couvert d'écologie, de normes,
et
de machin, de trucs.
Et d'ailleurs, que l'État aille chercher les meilleurs experts, parce que l'État c'est des gens qu'on a mis au pouvoir pour nous représenter et faire tourner la France, on est d'accord. Donc ils aillent chercher les meilleurs experts et qu'ils leur disent, voilà, un, il y a le stockage de l'eau, et deux, qu'est-ce qu'on fait pour les gens qui demandent des permis, quelle est la meilleure stratégie à adopter, et deux, comment on fait pour reloger des gens qui sont dans des risques inondables extrêmes. Ça se réfléchit, comme si demain matin on allait avoir une solution. Mais enfin, on a mis des gens plus intelligents, soi-disant, au pouvoir pour gérer ce genre de questions. Donc, payer l'assurance à 10%, 20%, 30% plus cher chaque année, ça résout rien du tout.
Joël Dagosséry.
Non, mais ce qui nous tue, c'est des gens qui gouvernent avec l'idéologie et pas avec du pragmatisme et du bon sens. Le bon sens et le pragmatisme, ça a disparu totalement de la tête de nos gouvernements. Parce qu'en fait, celui qui va aller interdire les permis de construire, tu crois qu'il va être réélu? Ben non, lui, il pense à sa prochaine réélection et que les gens vont pas être contents parce qu'en fait, ils peuvent pas construire leur petite maison, etc. Donc quand ta visibilité, quand ton objectif, c'est l'élection, ben, je peux te dire qu'il y a un tas de trucs que tu vas pas mettre en place. Et encore une fois, l'aménagement du territoire, je veux dire, c'est pas pour les chiens, hein. C'est pas, penser l'aménagement du territoire mais sur oui, plusieurs années,
déjà,
sur 30 ans.
Sortir un PLU, ça prend 15 ans.
Hein, oui, voilà. C'est pas pour les chiens, ça. C'est pour ça qu'on paye des gens et avec l'argent public. Malheureusement, ils le font pas. Moi, ce que j'ai pensé aussi, je me suis dit, mais attends, si t'as des récoltes qui sont autant impactées, c'est pas que la prime d'assurance qui va augmenter. C'est peut-être le prix, le prix dans les étals de supermarché, des fruits et des. On va se manger des doubles.
Posons la question au 32-16. Faut-il interdire les permis de construire en zone inondable? C'est ce que
la première
souhaite Didier Giraud.
Mais t'interdis, tu dis pas non, bêtement. Tu dis, écoutez, je pourrais vous accorder le permis de construire, mais je vous explique ce qui peut se passer.
Mais
tu fais une projection aux gens et tu leur dis, voilà, votre maison
elle
peut être où? Vous signez ou pas?
J'ai entendu.
Pas d'assurance.
J'ai entendu une dame, je crois que c'était sur BFM. Le journaliste lui demandait si elle savait. Elle a dit non, en fait, non, je ne savais
c'est
pas.
Sans, c'est censé savoir, c'est obligatoire.
Donc je me dis, mais attends, mais comment c'est possible?
Non, c'est obligatoire, c'est obligatoire.
Donc, moi, je
sais pas dans
comment...
les actes de propriété.
Pardon, mais tout le monde a envie de vivre au bord de la mer, tout le monde a envie de vivre au bord, pas très loin d'une rivière, d'un cours d'eau, etc. Après, effectivement, il faut aussi que chacun ait en tête qu'avec ces intempéries qui vont se multiplier, qui seront beaucoup plus fortes, il y a un risque. À un moment donné, il faut aussi responsabiliser les citoyens. Le problème des responsables politiques, c'est qu'ils nous prennent tous un peu pour des enfants.
C'est ça.
On va s'occuper de vous, rassurez-vous, etc. Rien. Je crois qu'il y a aussi à chacun de mesurer les risques. Moi, j'entendais aussi sur BFM une femme qui disait, ça peut arriver, tant pis, moi j'assume.
Voilà.
Je suis au bord de la Garonne, je trouve
c'est
très beau.
Gens qui construisent
et de temps en temps, il y aura des inondations.
Mais Olivier, c'est comme les gens qui ont des maisons en hauteur, un peu sol abrupt au niveau des falaises, etc. Bon, bah voilà, tu dis, bah moi,
un
personnellement.
Jour,
voilà. Non, mais la, c'est ça.
Non,
c'est,
mais le front de mer, dis, par exemple.
Non, mais tu.
Quand bon, t'achètes au front de mer, il y a 25 ans, enfin.
Non, mais tu peux. La mairie, elle peut se sécuriser. Elle peut dire, moi, je vous dis que vous êtes en zone extrêmement inondable, c'est-à-dire pas juste inondable comme tout le monde, mais extrêmement inondable.
T'auras pas les pieds dans l'eau, tu peux mourir.
Par contre, vous voulez vraiment construire votre maison, et ben voilà, nous on décline toute responsabilité. Vous êtes informé que ce permis de construire va poser des problèmes, et tu, comme tu dis, tu laisses les gens avec leurs responsabilités. Mais l'État dit.
Parce que souvent c'est moins cher aussi, hein, ça permet d'acheter aussi moins cher ton logement.
Vous vous rappelez en dans les Charentes, quand il y a eu le
à la faute sur mer,
Erika.
À Anglin, à Angoulin, Angoulin, vers La Rochelle.
Oui, la tempête de Xynthia.
La Xynthia, bon, ah, bah, voilà.
Erika, c'est
bon, la faute sur mer. La faute sur mer, Xynthia, tout ça. Bon, bah voilà, c'est les gens.
Oui, là-bas, c'est 2 mètres d'eau qu'il y avait.
Ah, ben c'était horrible.
Les gens sont morts.
Alors après, si tu achètes en deuxième ligne, c'est bien, tu fais un pari. Dans 50 ans, tu seras en première ligne.
Voilà, c'est ça, normalement. D'ailleurs, la Normandie est très à risque. Il y a plein d'endroits comme ça. Donc, faut repenser, comme dit Joël, hein, l'aménagement du territoire, faut le repenser de A à Z. Oui, et pas forcément avec des idéologues, mais avec des idéologues.
Tu sais, il y a aussi l'histoire, parce que les villes, elles sont construites à côté de l'eau potable. Donc, à un moment donné, quand tu agrandis en périurbain, t'es forcément au niveau d'un cours d'eau. Parce que des villes qui sont pas construites près d'un point d'eau, historiquement, ça n'existe pas, quoi. Hein.
Oui, c'est ça.
Bon, en tout cas, il faut prendre notre mal en patience. Nouvelle tempête qui arrive. Et a priori, à partir de vendredi, il fera un peu plus sec.
Oui, jusqu'à vendredi prochain.
Peut-être, voilà. Enfin, bon. Bon courage à tous et bon courage surtout à ceux qui subissent de plein fouet ces inondations, qui sont les pieds dans l'eau et c'est compliqué. Il y a des problèmes de ravitaillement, problèmes d'eau potable.
C'est terrible.
Voilà,
c'est 260 000 foyers.
Et plus d'électricité.